18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, à demain, place, c'est l'information qui passe, le 18-20 de France Inter est ouvert, bienvenue sur la planète et sa banlieue. On commence comme il se doit par le premier journal de la soirée, celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel de ce mercredi 11 septembre commence dans une très jolie euphorie.
Ils ont vaincu les plus forts sur la planète basket. Les Français ont éliminé les États-Unis en quart de finale du mondial. Ils partent en demi. Les Américains saluent des bleus exceptionnels. Une décision cruciale pour les salariés victimes de l'amiante et des autres substances toxiques au travail. La Cour de cassation reconnaît le préjudice d'anxiété pour plus de 700 mineurs de Lorraine. La majorité dans le viseur de la justice, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été entendu par les juges à Lille. Et coïncidence du calendrier judiciaire, ce matin, François Bayrou et Marielle de Sarnez ont également dû répondre aux magistrats. La Palestine, en colère après la promesse de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, d'annexer la vallée du Jourdain s'il remporte les élections la semaine prochaine. Et puis la droite, elle aussi, se met au transport écolo en Île-de-France. Valérie Pécresse, la présidente de la région, lance ses propres vélos électriques. Les nuages reviennent demain. La météo à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
À 18h15, Amélie, nous sommes en Tunisie. Les élections tunisiennes, c'est à la fin de cette semaine. C'est dimanche, un scrutin qu'on regarde d'extrêmement près dans ce pays. Premier à avoir fait sa révolution, qui s'en sort le mieux, mais qui reste encore rempli de soubresauts. Et on le verra avec notre premier invité. Le bruit du monde est en Suède. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Cette polémique stade de foot et homophobie. Elle parle de foot, bien sûr. Elle parle d'éducation aussi. Elle parle de deux mondes, le monde politique, le monde sportif. Alors est-ce qu'on a été trop vite? Est-ce qu'on monte sur nos grands chevaux? Est-ce que le foot si populaire ne doit pas montrer l'exemple? Est-ce qu'on doit sanctionner? Et si oui, comment? 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc l'exploit du soir, la victoire de la France sur les États-Unis.
Victoire en quart de finale du mondial de basket en Chine. Et oui, vaincre les Américains en basket, c'est un exploit. Avec 10 points d'avance, qui plus est, 89 à 79. Retenez leurs noms, Rudy Gobert et Van Fournier, ces bleus qui jouent en NBA, le championnat américain, ont surclassé les États-Unis. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu une si belle équipe de France. Hein.
L'équipe de France championne d'Europe en 2013 avec Tony Parker et Boris Diaw, médaillé de bronze au championnat du monde 2014. Avec ces deux stars iconiques, eh bien cette équipe nous a habitués ces dernières années à des hauts et des bas. Cette fois, c'est un très haut et sans ces deux jeunes retraités des parquets que les Bleus nous ont offert. Un moment historique, inédit, même face à une équipe américaine privée de ses grandes stars, LeBron James et Stephen Curry. Car même sans ces deux-là, les États-Unis restent les États-Unis, pays du basket. En tête à la mi-temps, les Français se sont fait rejoindre dans le troisième quart-temps avant de gagner de 10 points, un écart énorme. Greg Popovich, l'entraîneur emblématique des Spurs de San Antonio, l'équipe, l'ex-équipe de Tony Parker et des États-Unis, a reconnu la supériorité des Bleus.
C'est la meilleure équipe de France que j'ai jamais vue. Ils jouaient bien à la fois en attaque et en défense. C'était pas juste un assemblage de joueurs. Vraiment, ils étaient bien ensemble sur tout le terrain. Ils étaient sérieux. Ils ont fait du super boulot.
They were wonderful tonight. Des Français portés par leurs propres joueurs NBA, Rudy Gobert, Evan Fournier, Frank Ntilikina et le capitaine Nicolas Batum.
On sait très bien qu'on avait tout contre nous, donc on n'avait rien à perdre. Donc on a été là-bas, on a été combattus, 12 guerriers, et voilà. Mais c'est rien, c'est un quart de finale seulement. C'est historique, ça sera si on fait quelque chose jusqu'au bout. Là, on a juste fait un gagné quart de finale. Mais on a fait ça il y a 5 ans, je ne referai pas la même erreur.
Et Fabrice, pour les basketteurs français, c'est une double récompense. D'abord, la qualification en demi-finale.
Oui, contre l'Argentine, vendredi à 14h. L'Argentine qui a dominé la Serbie de 10 points. La Serbie, vice-championne du monde, qui avait sorti la France en demi-finale en 2014. Nicolas Batum vient d'y faire référence. La Serbie, vice-championne olympique à Rio. C'est l'autre grosse surprise de cette journée. La route vers la finale est donc ouverte, où la France retrouvera, en cas de succès contre l'Argentine, l'Australie ou l'Espagne. L'Australie qui s'est imposée contre la République tchèque aujourd'hui, offrant ainsi une qualification olympique au tricolore. C'est le deuxième cadeau.
Fabrice Rigobert, on regardera donc la demi-finale avec vous, France-Argentine, vendredi à Pékin.
Allez, 18h presque 5 sur France Inter. Amélie, une décision cruciale pour la protection de la santé des salariés.
La Cour de cassation vient de donner raison à plus de 700 anciens mineurs des houillères du bassin de Lorraine. Elle reconnaît le préjudice d'anxiété pour les employés exposés à l'amiante et à toute substance nocive ou toxique. Corinne Audouin a recueilli le témoignage de l'un des 732 mineurs. François Dossot, il a passé 30 ans dans la mine. Il nous dit pourquoi cette décision va pouvoir aider de nombreux travailleurs et pas seulement ceux en contact avec de l'amiante.
C'est une victoire pour les mineurs et pour tous les salariés de ce pays. On a utilisé cette action sur le préjudice d'anxiété principalement pour faire reconnaître que nous étions exposés à des cancérogènes et que cette exposition à des cancérogènes était la conséquence des fautes et des infractions commises par notre employeur, les Houillères du bassin de Lorraine, donc Charbonnage de France, entreprise nationalisée, qui nous a exposés à des risques terribles, la poussière de silice, etc. Nous avons combattu ça pendant 40 ans, et les Houillères trichaient sur tout, elles trichaient sur la réglementation, elles trichaient sur les mesures, elles faisaient des pressions, on s'est battu avec eux pendant 40 ans pour faire avancer la prévention.
Donc c'est historique cet arrêt pour vous ?
C'est très important, historique, je ne sais pas ce qui est historique. Moi je suis dans le combat depuis que j'ai 15 ans, hein, donc voilà, ça fait 54 ans. Mes copains sidérurgistes, ils disaient « l'acier forge les hommes, hein, elle trempe les hommes, le charbon aussi, ça trempe les hommes ».
Le témoignage de François Dossau au micro de Corinne Audouin. Justice encore, mais côté politique, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est entendu depuis ce matin par trois juges d'instruction. Les magistrats enquêtent sur des soupçons de prise illégale d'intérêt quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Sa compagne aurait acheté un bien à Brest en le louant aux mutuelles de Bretagne. Et décidément, la majorité en difficulté aujourd'hui puisque son allié Modem est également dans le viseur. Après l'audition hier de Sylvie Goulard, la nouvelle commissaire européenne, aujourd'hui, François Bayrou, président du Modem, et Marielle de Sarnez, sa vice-présidente, ont été auditionnées à leur tour. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint, vous êtes de la cellule investigation de Radio France. Alors là, il s'agit de soupçons d'emploi fictifs pour les assistants parlementaires européens. Que leur reproche-t-on plus précisément, Élodie ?
Eh bien, en fait, on soupçonne les dirigeants du Modem d'avoir cherché à faire des économies en faisant rémunérer certains de leurs collaborateurs par le Parlement européen. Et ça, grâce aux enveloppes budgétaires des eurodéputés. Ça fait deux ans maintenant que la PJ enquête, elle a épluché des dizaines de contrats d'assistants, elle a entendu de nombreux témoins, elle a aussi perquisitionné le siège du Modem. Selon nos informations, la police anticorruption a notamment saisi un document dans l'ordinateur de François Bayrou qui renforce les soupçons. Ce document, il évoque précisément des jumelages de contrats Modem avec des contrats européens afin de respecter les contraintes financières du parti. Les policiers soupçonnent aussi une figure du Modem, une autre, Marielle de Sarnez, d'avoir utilisé des assistants européens pour des tâches personnelles, gérer les travaux de sa résidence secondaire, payer ses femme de ménage ou encore réserver des billets d'avion pour les vacances. François Bayrou et Marielle de Sarnez ont toujours réfuté avec vigueur ces accusations par voie de presse. Et donc, depuis ce matin, c'est devant les policiers, c'est aux policiers qu'ils ont livré leur version.
Merci Élodie Guéguin. Plus de 200 personnes devant le tribunal de grande instance de Paris en soutien aux décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron pour avoir enlevé les photos officielles du président de la République dans plusieurs mairies d'arrondissement de la capitale. Ils sont poursuivis pour vol en réunion. C'était un moyen pour ces militants écologiste de dénoncer l'inaction climatique du chef de l'État. L'affaire Epstein, côté français, un appel à témoins a été lancé aujourd'hui par la police française pour retrouver des victimes ou des témoins. Donc, le parquet français cherche à savoir si le financier américain Jeffrey Epstein, poursuivi aux États-Unis pour viol et agression sexuelle, notamment sur des mineurs, s'il a aussi sévi sur des victimes françaises. L'homme s'est suicidé en prison au mois d'août.
La campagne pour les législatives en Israël et cette promesse de Benjamin Netanyahou très critiquée.
Le premier ministre qui joue sa réélection a l'intention d'annexer une grande partie de la Cisjordanie, la vallée du Jourdain, s'il gagne la semaine prochaine. Condamnation générale des pays arabes, de l'Union européenne, tous y voient la mort d'un déjà hypothétique plan de paix. Cet après-midi, des roquettes ont été lancées des territoires palestiniens sans faire de dégâts ou de blessés. À Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne, cette promesse de Netanyahou est comprise comme l'enterrement de la solution à deux États, Marine Vlahovic.
Simple coup électoral ou stratégie de longue haleine, la promesse de Benjamin Netanyahou d'annexer un cinquième de la Cisjordanie occupée en cas de réélection est une menace prise très au sérieux par Hanan Ashrawi de l'Organisation de libération de la Palestine.
Même si c'est en pleine campagne électorale, nous savons que ces propos trahissent les vraies intentions et l'idéologie de Netanyahou. Donc nous ne les prenons pas à la légère.
Et cette déclaration sonne le glas une fois pour toutes de la solution à deux États, selon cette dirigeante, rompue aux négociations avec l'État hébreu. Une solution déjà moribonde en raison de l'accélération de la colonisation israélienne.
Le gouvernement israélien détruit la solution à deux États, vole les terres qui doivent servir à cette solution et essaye d'effacer la présence palestinienne. C'est devenu un terme abstrait. Beaucoup de gouvernements en Europe continuent à dire qu'ils sont engagés, mais ils ne font rien contre la politique d'Israël qui consiste à empêcher l'émergence d'un État palestinien viable territorialement dans les frontières de 67.
Mahmoud Abbas, le président d'une autorité palestinienne, palestinienne sans véritable autorité, a promis de suspendre les accords passés avec Israël en cas d'annexion. Un chiffon rouge agité à plusieurs reprises ces dernières années, mais qui n'a jamais été suivi d'effet. Ramallah, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
L'élection législative, c'est mardi prochain, le 17, en Israël. Compter ses forces 2 ans après la tentative de sécession en Catalogne. Les indépendantistes manifestent depuis 17h14, comme le 11 septembre 1714, jour de la chute de Barcelone lors de la guerre de succession d'Espagne. C'est le jour de la Diada, un symbole fort pour ceux qui voudraient quitter l'Espagne pour une Catalogne indépendante. Mais le moment est délicat pour les indépendantistes. 9 dirigeants en prison et des dissensions dans les rangs. Élise Delève est à Barcelone pour France Inter.
Anna et Antonieta applaudissent. Elles manifestent en soutien aux dirigeants emprisonnés.
Inquiète, nous sommes très inquiètes parce qu'il y aura sûrement un verdict très... Alors qu'ils n'ont rien fait. Imagine qu'on te mette toi ou moi en prison sans que tu n'aies rien fait. À combien d'années en arrière faut-il remonter pour voir ça? C'est un mensonge complet, complet. La seule violence qu'il y a eu, c'est de la part de la police espagnole. Alors à quoi ça sert la liberté d'expression si ce n'est pour ne pas s'exprimer? Je peux penser d'une certaine façon et toi d'une autre. Il ne doit pas y avoir de conflit. Chacun doit pouvoir s'exprimer de la façon dont il veut.
À entendre leur passion pour la cause sécessionniste, difficile de croire que ces deux sœurs n'étaient pas indépendantistes il y a 2 ans. Elles votaient pour des partis traditionnels, mais se disent aujourd'hui déçues, tout comme Perret. Il est dégoûté des politiques, y compris des partis catalans.
Fatigués. Nous sommes fatigués que les politiques ne nous correspondent pas. L'indépendantisme continue de la même manière. Les seuls qui se sont dégonflés, ce sont les politiques. Nous avons des politiques qui ne nous méritent pas, ce sont des nuls. Il y a certains partis qui se sont dégonflés complètement et on ne sait pas à quoi ils jouent.
Comme beaucoup d'indépendantistes croisés cet après-midi, Perret sait que la bataille sera longue. Cela fait 300 ans qu'on lutte pour notre indépendance, dit un manifestant. Alors 15 ans de plus ou de moins, Barcelone, Élise Delève, France Inter.
Le ton est-il en train de se radoucir entre la Chine et les États-Unis? En tout cas, Pékin annonce ce soir l'annulation de surtaxes douanières sur les pesticides, la nourriture pour poissons ou encore sur certains produits pharmaceutiques. Il s'agit surtout d'alléger la pression sur les industriels et les commerçants chinois. Eux se plaignent des surcoûts sur leurs marchandises. Mais c'est aussi un signe d'apaisement en direction de Donald Trump avant des négociations début octobre à Washington.
Allez, le match se jouera-t-il pour les municipales sur les transports propres en région parisienne?
En tout cas, après avoir vertement critiqué les Vélib d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se convertit elle aussi au vélo électrique. La région lance Véligo. C'est une offre de location de 6 à 9 mois. Vous gardez le vélo avec vous, vous en êtes responsable. C'est 40 euros par mois sans l'assurance, qui est plutôt conseillée. Les Véligo sont expérimentés depuis 3 mois. Nathalie Domenego a rencontré quelques volontaires.
Alors c'est lui. Oui, c'est lui. C'est mon beau vélo bleu. Il est extrêmement confortable.
Sophie l'a utilisé entre son domicile et le travail, 16 km aller-retour.
On voit le niveau de charge.
On voit le niveau de charge.
Sur le guidon. Je vois qu'il me reste à peu près 80% de batterie. Et j'ai bien travaillé depuis ces 2 mois parce que j'ai quand même fait 486 km. C'est pour vous dire comme ça m'a plu.
Autre testeuse séduite, elle s'appelle également Sophie, 20 km cette fois entre son travail et le domicile dans les Yvelines.
Je voulais voir si c'était compatible avec mon trajet. Et puis surtout, tester le vélo électrique. L'objectif, c'est aussi d'arriver au bureau sans être transpirant. Donc c'était pour voir si c'était quelque chose de faisable. Et alors, oui, tout à fait, totalement convaincue par le vélo.
Et pourtant, elle va reprendre sa voiture.
C'est très anxiogène de sentir les voitures qui vous frôlent. Vous arrivez quand même pas très détendu au bureau.
Elle n'a qu'un tiers de piste cyclable sur son parcours. Pour ce qui est du vélo, il est robuste et bien équipé. Et il n'a pas le même usage que le Vélib, par exemple, explique Aline Gauger-Lefebvre, porte-parole Véligo.
Nous, notre offre, elle est bien de s'approprier un vélo durant une durée suffisamment longue pour vous permettre de l'expérimenter et de faire en sorte que vous adoptiez le vélo assistance électrique pour vos trajets du quotidien.
9 mois de location maximum. Après, il faudra passer à l'acte et en acheter un.
Et par ailleurs, si le test est convaincant, la région veut proposer une aide à l'achat dans la limite de 50% du prix du vélo et 500 euros maximum entre février et juin 2020 en pleine bataille des municipales. Donc, et pour finir, eh bien, le vélo, c'est peut-être la solution pour vendredi qui vient, le 13 septembre, jour de grève à la RATP. Le métro risque d'être extrêmement perturbé, nous dit ce soir la RATP. Le trafic sera même interrompu sur 10 lignes de métro. Et côté RER, ce ne sera pas beaucoup mieux. Trafic extrêmement perturbé également. Les trains circuleront uniquement aux heures de pointe. En dehors de ces heures de pointe, eh ben, les gares RATP seront carrément fermées.
Voilà, et on leur donnera évidemment toutes ces infos. Merci beaucoup Amélie Perrier, à tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Ce soir, nous allons aussi en Tunisie et en Suède notamment. Et puis deuxième heure, le téléphone sonne. Allez-y, le standard est ouvert. Profitez-en, ce soir on plonge dans le débat sur l'homophobie dans les stades de foot, puisque le temps de la discussion est là, semble-t-il en tout cas. Y a-t-il un problème spécifique au foot à régler? Est-ce qu'on s'y prend bien pour le régler? Quand on nous dit ces insultes, c'est du folklore, ça veut dire quoi exactement? Cette affaire, c'est aussi un clash entre le monde politique et le monde sportif, et votre avis nous intéresse. Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000. Et sinon dehors, ça se passe comment?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Jean-Pierre Hameau, comme on a coutume de dire, la météo est contrastée entre le nord et le sud.
Oui Fabienne, la couverture nuageuse sera une nouvelle fois épaisse demain matin de la Bretagne au Poitou, en passant par les Pays de Loire, de la Normandie à la région parisienne et du Nord-Pas-de-Calais à la région Grand Est. En revanche, le soleil sera au menu de votre matinée dans la moitié sud du pays. Prévoyez quand même au lever du jour quelques bancs de brouillard éphémères vers le sud de l'Aquitaine. Et puis l'après-midi, les nuages feront de la résistance au nord de la Loire. Partout ailleurs, l'ensoleillement sera généreux.
Quelques températures pour la route?
Eh bien, des températures nocturnes plus douces que ces derniers jours, avec des minimales au lever du jour généralement comprises entre 10 et 16 degrés. Prévoyez 19 à Nice, et puis les maximales repartent à la hausse avec des valeurs comprises entre 21 et 30 degrés. Dans le détail, on prévoit 21 à Brest, 23 à Lille, 25 à Paris et Nancy, 27 à Dijon, Lyon, Bordeaux et Toulouse, 28 à Marseille et 30 à Nîmes.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup Jean-Pierre, à tout à l'heure après 19h.